La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Tâchez donc, fidèle ami auditeur de Radio Serré, de toujours et toujours vous relever autant de fois que vous trébucheriez. Ce générique ne trompe pas, c'est sans doute votre émission Interline qui prend place une fois encore sur les ondes de la radio qui réinvente l'avenir, la 105.5 MHz. Alors installez-vous confortablement. Chaque semaine dans Interline, nous donnons la parole à un jeune start-upper porteur d'idées novatrices dans la région. Ceci dans l'optique de mettre en avant le savoir-faire des jeunes et prôner ainsi l'auto-emploi. Dans Interline, nous parlons également des nouvelles modes et tendances ainsi que des faits marquants de la société. Comme toujours, vous aurez vos trois rubriques habituelles avec leur caractère aussi attrayant que captivant. Il s'agit des incubateurs du Sahel, de Tape à l'œil et de Vie de ton sac. Pour cette édition, la rubrique réservée aux incubateurs s'intéresse à la start-up numérique dénommée Diabama. Au fauteuil de l'invité, son promoteur, Hepsia Djuptusia Ismaël. Avoir une peau noire ou claire, à chacun ses préférences. Vous suivrez des avis de quelques jeunes à qui nous avons tendu notre micro dans le cadre de la rubrique Tape à l'œil. Et puis, comment est-ce que les populations gèrent-elles la hausse des prix de denrées sur le marché depuis ces derniers temps? On en parle dans Vie de ton sac. L'équipe mobilisée pour la production et la réussite de cette émission est constituée de Maxino à la mise en onde, de Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la supervision générale. Je suis Lidole Wawa à la présentation. Installez-vous confortablement, madame, monsieur, car le décollage, c'est dans un instant. Voltaire disait que le travail est loin de nous. Trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. De même, amis auditeurs, l'entrepreneuriat nous éloigne du chômage et de l'oisiveté. Afin de montrer son savoir-faire et de ne plus sombrer dans l'oisiveté, Hepsia Djuptusia Ismaël a mis en place la start-up Diabama, qui est une plateforme numérique spécialisée. Il propose à tout visiteur ou touriste d'avoir une vue d'ensemble sur la région de l'extrême nord. Hepsia Djuptusia Ismaël est au fauteuil de l'invité, suivant cet entretien mené pour plus de précisions. Monsieur Hepsia Djuptusia Ismaël, merci de répondre aux questions de l'émission Interline.
Merci, c'est un plaisir partagé.
Vous êtes le promoteur de la start-up Diabama. Dites-nous, Diabama, c'est quoi exactement?
Alors, Diabama, en fait, veut dire bienvenue. Et ça veut dire, dans le côté numérique, bienvenue sur la plateforme numérique de la région de l'Extrême Nord. En fait, c'est juste un portail numérique qui permet à tout visiteur ou toute personne qui a besoin d'avoir plus de connaissances sur la région de l'Extrême Nord, de pouvoir surfer à partir de votre application mobile ou bien à partir de votre machine. Et c'est ça, en fait, Diabama.
D'accord. Et quand est-ce que cela a été mis en place?
Alors, c'est en l'an 2018 que nous avons initié le projet. Le projet est parti du besoin de participer à une compétition intitulée Génie et talent de l'étudiant camerounais. Et on s'est dit donc, pourquoi ne pas profiter des Jeux universitaires pour proposer aux invités, ceux qui viendront ici, de découvrir la région, sans se déplacer. Mmh. Et donc, on se dit, comme la base, à la base, nous sommes des littéraires et des passionnés de la culture, mmh. on s'est donc, on a essayé de mélanger les deux, le numérique et notre domaine de formation. Et c'est comme ça que l'idée est partie.
En 2018.
Okay.
Vous êtes au nombre de combien à l'avoir fondé?
Fondamentalement, nous sommes trois. Mmh. Et il y a moi, il y a Maïramou, il y a donc Jean Ulrich. Mmh. Et avec le temps, ça a essayé de. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont ajoutés et tout ça. Et bon, ça, c'est large, je ne peux pas revenir sur les détails.
Okay. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'une compétition. Est-ce là l'idée fondatrice de Diabama?
Justement, Diabama est partie d'une compétition à laquelle nous avons participé et nous avons obtenu le deuxième prix national Jeune Talent de l'étudiant camerounais en art numérique. Et c'était à partir de là qu'on s'est dit pourquoi ne pas le mettre sur le marché. C'est vrai qu'après cette compétition, il y a eu des suivis. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de nous accompagner. Nous avons participé à un séminaire à Eboulova qui nous a permis de connaître l'entrepreneuriat et donc la mobilisation des fonds, comment les cadres juridiques de création d'une entreprise. Mm-hmm. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'il fallait que nous ayons pour pouvoir mettre sur pied l'entreprise.
Mm-hmm. D'accord. Avant de vous lancer, avez-vous eu le temps d'étudier au préalable les risques qui peuvent en découdre de la mise en place d'un tel procédé ou vous êtes simplement lancé?
À vrai dire, nous sommes lancés juste par passion. C'est par passion. J'avais une passion pour le numérique et c'est de là que je me suis lancé. Je n'ai pas étudié le marché. Je ne connaissais pas ce qu'on parlait de l'entrepreneuriat, c'est quoi les business plans et tout ça. Je n'en avais pas une grande connaissance. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et à découvrir véritablement les difficultés, les opportunités, les menaces et tout ce qui va avec. Et donc, on a connu tous ces éléments, pas avant, mais après. Donc, c'est une fois déjà dans le domaine que nous avons commencé à découvrir et réellement, c'est tous ces éléments-là.
D'accord. Je ne sais pas si je reviens sur la question. Quels sont de façon concrète les services que vous vendiez?
En fait, c'est du business. Quand nous vous proposons, quand vous venez sur notre site, nous avons également d'autres services comme des services de publicité, le CPC, on appelle ça le coût par clic et tout ça, qui en fait, vous en tant qu'utilisateur, vous ne voyez peut-être pas, mais nous connaissons ce que nous gagnons derrière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous voulez apparaître sur l'application, ou bien vous voulez être présent sur le site, pour vendre votre projet ou vos produits ou bien quelque chose, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions également faire diffuser vos contenus.
Voilà. D'accord. Et quel est le profil de votre clientèle?
La clientèle, elle est large. Elle n'est pas concise ni précise. Parce que, dès le départ, c'était d'abord les touristes, ceux qui visitaient, les visiteurs, tout ça. Et comme nous avons que, depuis un certain temps, la région a eu des difficultés à avoir des touristes, à avoir des gens qui viennent pour juste pour faire du tourisme. Et donc, voilà, nous avons essayé d'élargir le marché. Tout le monde peut venir, peut être notre client. Si vous avez quelque chose à vendre ou si vous voulez vous faire connaître, voilà.
Généralement, les jeunes start-up ont une durée de vie assez courte. Comment comptez-vous pérenniser votre jeune établissement?
En fait, avec les études et tout ça, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre pour pérenniser une start-up. Je ne sais pas, je ne veux pas revenir sur les éléments parce que là, c'est tellement aussi théorique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est difficile. L'environnement change à tout moment. Il faut s'adapter à l'environnement. Il faut être à tout moment sur la pointe des informations et tout ça pour être à la une, pour ne pas que vous restiez derrière. Parce que la concurrence est tellement rude. Il y en a beaucoup qui sont déjà sur le marché et il faut savoir aller au rythme de la nouvelle technologie.
Ok. Dans presque tous les domaines, il y a des difficultés et tout et tout. Alors dites-nous, quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous faites face?
Difficultés, vous savez, là où il y a deux, trois, c'est un peu compliqué à manager. Je ne veux pas revenir sur ces éléments d'ordre humain. Mais l'autre élément le plus essentiel, c'est les ressources. C'est pas facile quand vous êtes start-upper, vous voulez vous lancer. pour avoir des ressources, ce n'est pas facile. Il y a aussi également des promesses ou bien des discours politiques qui vous font croire qu'on vous dit, on va vous changer d'un moment à l'autre. Il y a beaucoup de promesses qui n'aboutissent pas. Mais c'est un problème, c'est un réel problème. Il faut donc véritablement avoir vos propres ressources pour vous lancer sur le marché. Ça, c'est le principal, la principale difficulté.
L'on a constaté que la plupart des projets novateurs sont très vite copiés. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour protéger l'idée de votre entreprise?
Bon, déjà, l'idée de copier, je ne dis pas que... c'est pas parce que vous faites du beignet que vous allez empêcher votre voisin de faire du beignet. Peut-être la paternité de votre projet, vous pouvez protéger votre, la paternité du projet. Il y a des agences de protection des propriétés intellectuelles. Tout ça, il faut s'enregistrer, tout ça dans le registre du commerce, tout ça. Mais vous ne pouvez pas dire que vous pouvez empêcher votre voisin de vendre du beignet parce que vous vendez du beignet. Ah, voilà, c'est un peu ça.
Est-ce qu'il n'y a déjà pas eu des tentatives de plagiat de l'idée de votre entreprise? Ça dit, l'autre peut faire, mais il y a un truc certainement de concret, de plus que vous vous apportez. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà de tentatives donc de plagiat de cela?
Bon, je ne dis pas parler du plagiat parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des gens qui veulent faire comme vous. Votre, quand une idée sort de vous, ce n'est plus votre idée en fait. Donc plagiat, moi je n'appelle pas ça du plagiat. Dans le langage du commerce, ça existe. Donc le copier, la copie du produit, ça existe. Donc cela ne veut pas dire qu'il a plagié. Je ne peux pas dire qu'il a plagié. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que vous devriez faire quelque chose de différent pour rester sur le marché, pour être différent. Voilà. Donc c'est un peu ça.
Et là, à supposer qu'un banquier, un homme d'affaires ou un philanthrope nous écoute présentement, quel message voudriez-vous l'adresser?
Je pense que c'est une opportunité de parler à tous ceux-là qui nous écoutent. Déjà, j'avais souligné que le crowdfunding, l'accès au financement, ce n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, si c'est que ceux qui nous écoutent veulent aider véritablement la jeunesse, parce que c'est l'entrepreneuriat qui reste beaucoup plus ouverte à la jeunesse. Il faut savoir que les jeunes ont beaucoup d'idées. Ils ont d'idées innovatrices et tout ça. Essayez de leur donner les opportunités de se lancer et ne les fermez pas la porte. Vous pouvez avoir d'idées, mais vous ne pouvez pas avoir des ressources. Et même si vous voulez vous lancer sur le marché des recherches de financement, il faut savoir que là aussi, ce n'est pas facile tant que vous n'avez pas quelque chose de concret. Même le capital d'amorçage est difficile à avoir. Encore pire, le capital risque. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut vous donner. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui croit en vous, qui pense que vous pouvez créer du potentiel, n'hésitez pas à soutenir la jeunesse, pas simplement peut-être Diapama, mais la jeunesse dans sa globalité. Voilà.
Avez-vous un message à adresser aux jeunes qui nous écoutent et qui hésitent encore à se mettre sur leur propre compte?
Je veux dire à la jeunesse ou aux jeunes, ceux qui veulent se lancer, c'est qu'il faut savoir, on dit beaucoup de start-upers ont du mal à continuer. Plus de 90%, généralement, ça c'est une statistique qui échoue. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas juste parce que je n'ai pas eu un concours quelque part, il faut que je me lance. Il faut avoir deux éléments fondamentaux, à savoir la détermination de réussir. Vous êtes convaincu de votre idée. Et deuxièmement, il faut avoir au moins un capital qui vous permettra de vous faire voir sur le marché. Sinon, ne vous hasardez pas. C'est pas facile. C'est pas facile de vous lancer. Moi, je dirais même que si vous permettez, l'accès à la fonction publique est plus facile même que commencer l'entrepreneuriat. Ça, c'est dans mon sens subjectif de terme. Parce que c'est le marché et la concurrence est rude. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas déterminé, vous vous lancez juste parce qu'on dit qu'on donne du financement quelque part, il faut aller avoir. Je pense que vous allez juste par aventure. Et donc, ce n'est pas vraiment évident.
Et comment on fait quand on a besoin de vos services?
Je veux préciser ceci. La start-up a connu deux phases. Il y a une phase, la première phase, c'était d'abord, nous sommes partis du mobile. Le mobile, c'était juste une application sous format Android. Et après, on est passé au PWA, ça veut dire Web Application Progressive, qui permet de mettre à partir de votre application, à partir de votre... En fait, vous n'avez pas besoin d'une boutique. comme ça soit App Store ou bien Play Store pour avoir l'application. Maintenant, nous sommes revenus encore à l'intérieur parce qu'on a besoin d'améliorer le contenu. Donc voilà pourquoi cette fois-ci, vous ne trouverez pas la visibilité de la start-up. Nous sommes en train de retravailler pour pouvoir nous permettre d'avoir d'être aux normes, que ce soit sur la concurrence, aux normes, que ce soit en tout cas sur tous les sens. Donc pour le moment, nous ne sommes pas encore nous sommes rentrés sur nous-mêmes. Et le moment venu, nous allons nous battre nous-mêmes à communiquer à nos utilisateurs ou bien aux clients comment avoir ça pas mal.
Monsieur Hepsia Djouktousia Ismaël, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est à moi de vous remercier parce que c'est une grande opportunité que vous nous accordez. Merci beaucoup.
Quitter de zéro à héros, c'est bien possible, amis auditeurs. Il suffit d'y croire. Croire en ses compétences et avoir confiance en soi. Noir ou clair, à chacun ses préférences, surtout que dit-on, des choix et couleurs, on n'en discute point, parce que c'est chacun qui a ses motivations. Toutefois, beaucoup considèrent la couleur de la peau comme un fait naturel. On parle de créatures divines, bien que des produits artificiels à même de modifier la couleur de la peau voient de plus en plus le jour. Quelques personnes à qui nous avons tendu notre micro diront par exemple que le plus important, ce n'est pas la couleur de la peau, mais plutôt la couleur du cœur. Écoutons quelques avis recueillis sur la question.
En matière de teint, moi je n'ai pas de préférence que la personne soit noire, blanc, jaune ou quoi que ce soit. Bon, moi je n'ai pas de préférence. Je veux juste que la personne soit charismatique et c'est tout.
Moi, je préfère les filles de teint clair, naturel, bien évidemment, puisque ça, c'est joli et autre. Mais que d'avoir une fille qui a un teint clair mais qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire une fille qui se décape, qui utilise le maquillage et autres, je préfère encore celle de teint noir, naturel. Puisque les filles qui se décapent, elles sont trop exposées à diverses maladies et elles présentent même une nausée qui ne donne pas du tout envie de rester à côté.
Le teint qui me plaît, que j'aimerais avoir, ou celui de mon gars, j'aimerais bien un teint chocolat, un teint ébène quoi. Parce que le teint ébène, quand tu prends soin de ça, c'est vraiment beau à voir. C'est joli, c'est lisse. Donc c'est la couleur du teint qui me plaît, moi.
Moi, personnellement, si c'est que tu es un garçon et que tu es noir, sois noir propre. Donc pas de propre vraiment, quand tu brilles. Si tu es brun, sois brun aussi propre, donc sans trop de taches. Mais s'il s'agit de préférence, vraiment, je vais dire que je préfère les métisses. Parce que j'aime bien le mélange noir, blanc, kia. Ça fait un peu un truc caramélisé. Ce sont mes préférences, en fait, ce que c'est les garçons.
Moi, j'aime les filles noires, puisque quoi, ils sont les naturelles filles, ils ne se décapent pas le corps. Donc, moi, ça me plaît trop. Mais quand ils les voient, moi, je suis toujours heureux comme ça.
Je préfère les teints noirs parce que d'abord c'est naturel, ça présente l'Afrique, donc Africa Beauty quoi, tu vois.
Moi particulièrement je préfère les gars noirs, je n'aime pas trop les gars blancs parce que le plus souvent ce sont les gars sales, très sales même. Et il ne s'agit pas seulement de la couleur de peau, il peut être bien brun. Mais s'il se comporte bien, ça va, ça passe, je peux gérer. Mais sinon, moi, ma particularité, je préfère les hommes noirs.
Voilà, vous l'aurez bien compris, ton noir ou clair, le plus important, est loin d'être la couleur de notre peau. Celle-ci ne devrait donc pas être un critère de définition d'une personne. La hausse des prix de denrées sur le marché n'est pas sans conséquence car elle a impacté négativement les habitudes alimentaires de plusieurs familles. Si auparavant on pouvait aisément manger trois fois par jour, aujourd'hui plusieurs ne peuvent plus s'offrir ce minimum. Quand bien même d'autres l'ont gardé, elles ont été contraintes de doubler les dépenses ou frais de ration. Toute chose qui n'arrange pas ces populations qui, pour la plupart, sont à bout de souffle. Nous avons tendu notre micro à quelques-uns. Tous expriment leur ras-le-bol dans la rubrique « Vie de ton sac ». Écoutons-les.
Le mille a augmenté quand même au marché, vous-même vous connaissez. Les parents, les pères des familles souffrent de cela. En tant que bon dans le marché, le prix ne change pas. Nous, les parents qui sont à la maison, on peut aussi être dans ça, on ne peut pas quand même échanger le prix parce qu'on ne peut pas aussi échanger le kilo qui est à la maison. Et dans ça, nous nous plaignons d'abord sur ça. Parce qu'il n'y a pas de changement sur le kilo, il n'y a pas de changement sur le prix du mille. Donc je ne sais pas comment on peut nous aider en ça.
Tu connais maintenant, là, les choses ne sont pas du tout abordables au marché. Même le savon de 300, c'est devenu maintenant 350. Même les légumes, même le foliaire là, il n'y a plus de foliaire de 50 au marché. C'est 100 francs. Comme les choses sont augmentées maintenant, nous, on se bat comme ça avec souvent comme ça là. Seulement, on peut réduire. Ça ne fait qu'augmenter plus tôt. On ne peut pas réduire les dépenses. Ça ne fait qu'augmenter. Avec le peu que tu as souvent, tu te débrouilles avec seulement comme ça.
J'ai essayé donc en fait de m'adapter, non seulement en réduisant la quantité de consommation, mais en augmentant plutôt le revenu. Donc par rapport à ce que je consommais avant. Si avant j'avais peut-être 1000 francs pour la ration, maintenant j'augmente juste soit 500 parce que je ne peux pas avoir les mêmes denrées que j'avais au prix d'avant. Donc j'essaie de m'habituer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on s'habitue comme ça du jour au lendemain. Et aussi pour un peu me faciliter aussi, j'essaie de voir les produits qui sont abondants sur le marché. Et comme ça, j'essaie de vivre en fonction des saisons. Donc quels sont les produits qui sont abondants sur le marché et à un peu des prix un peu bas. Un peu ça, pour essayer de m'en sortir dans mon ménage, puisque je vis seule. Donc, c'est un peu ça.
La vie d'étudiante, vraiment, avant, c'était mieux. Comme les aliments étaient, bon, c'était passable. Maintenant, avec les hausses des prix, des denrées, c'est compliqué, en fait. Surtout que quand l'on vit seul, tu n'as pas le soutien des gens. D'ailleurs, tu te bats le peu d'argent que les parents t'envoient. Fait avec. Maintenant, même le litre du lait a augmenté au marché, c'est vraiment compliqué. Là, on n'arrive plus à bien manger comme avant. On ne peut plus faire les économies, du coup, c'est pas facile. Des fois, tu passes même le riz là, tu ne trouves pas le riz pour manger parce que c'est compliqué vraiment. Étudier seul ailleurs là, c'est pas facile. Mais par contre, si tu es chez les parents, au moins tu ne te soucies pas des aliments. Mais quand tu es seul là, c'est vraiment compliqué quoi. Tu pars à l'école, tu reviens, étant en famille, tu passes la soirée comme ça, le lendemain tu repars à l'école, tu reviens. Et du coup, c'est pas facile, c'est compliqué quoi. Et moi, je ne conseillerais même pas aux parents de laisser leurs enfants étudier seuls. Parce que c'est vraiment compliqué, surtout en ce moment de crise alimentaire là.
La hausse des denrées alimentaires sur le marché, la vie devient de plus en plus difficile. Et vu que je ne suis qu'une simple étudiante, avant même pour le mois, on m'envoyait 40 000, 15 000 pour mon transport, avec les polycoms, tout ça. Et le reste, c'était pour la nourriture et mes petits besoins. Mais maintenant, c'est même cette somme est insuffisante.
De nos jours, avec la hausse des prix sur le marché, j'ai réduit mes marchandises sur le marché. Avant, on m'envoyait 15 à 20 000 pour le mois. C'est toujours la même somme, mais pour acheter les marchandises au marché, je réduis. Avant, j'achetais un tanguy de litre d'huile. Maintenant, avec la hausse des prix, je prends un litre et pour pouvoir économiser également. Et comme ça ne suffit pas, j'exerce également des petits métiers à côté pour pouvoir compléter mon argent pour atteindre le mois prochain. Pour la consommation, on ne peut pas diminuer ma consommation, mais juste que je dois peut-être bien économiser mes provisions.
La hausse des prix de denrées alimentaires sur nos marchés est bel et bien réelle et pour pallier à la situation de vie chère, c'est chacun qui développe donc une stratégie entre réajuster son budget, réajuster les dépenses ou revoir ses habitudes alimentaires. Les populations de la région de l'extrême nord sont partagées. La meilleure des publicités, amis auditeurs, est un client satisfait. Une fois votre clientèle satisfaite, elle est largement suffisante pour faire votre propagande et promotion. Tâchez donc de toujours et toujours satisfaire votre clientèle dans tout ce que vous faites. Madame, Monsieur, le temps imparti à cette émission tire à sa fin. Nous avons, dans le cadre de la rubrique « Les incubateurs du Sahel », déroulé notre tapis rouge à une jeune start-up dénommée Diabama. Heptia Djouptoussia Ismaël, promoteur de cette plateforme numérique, était au fauteuil de l'invité. Les préférences en ce qui concerne la couleur de la peau a frappé à l'œil de la rubrique « Tape à l'œil ». Dans « Vie de ton sac », nous parlions de la vie chère et de ses répercussions sur le panier de la ménagère ainsi que des méthodes optées par les populations face à cette situation. Des populations qui n'ont pas d'autre choix que de redoubler d'investivité pour faire preuve de résilience face à cette situation. De l'autre côté de la baie vitrée, Maxino assurait à la mise en onde, Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la supervision générale. À ce micro de présentation, je suis l'idole Wawa. Je vous donne rendez-vous pour l'édition prochaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.